Chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Sport sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler de toute l'actualité sportive et franchement on a des choses à dire ce soir parce que ce qui s'est passé dans le week-end du sport, que ce soit sur Angers ou que ce soit même à l'international ou au niveau national, il y a énormément de choses à dire. Et pour évoquer l'ensemble de ces sujets, vous avez l'habitude de retrouver les mêmes voix et cette voix qui était partie en vacances la semaine dernière et qui est revenue, ça y est, il est revenu du ski. Comment vas-tu, Faustin?
Bah, ça va très très bien. Une bonne semaine au ski, qui n'était pas de tout repos non plus. J'ai les jambes un peu en feu, ouais. mais c'est pas grave.
Ça t'a fait du bien?
Ouais, quand même. Un peu de neige, un peu d'altitude, ça fait toujours plaisir.
T'as repris un peu d'air dans les bronches pour finir cette saison de Génération Sport.
Voilà, c'est ça pour...
Pour tenir jusqu'au mois de juin.
Exactement.
Un autre qui était au ski aussi également, mais qui a travaillé aussi entre-temps, voilà. Comment vas-tu, Amaury?
Eh bah, ben, ça va super bien. Après un début de semaine chargé, mais plutôt très cool à vivre pour moi.
Ouais. Bah on va quand même le dire, t'as participé à la conférence de presse hier pour la Coupe de France. On va pouvoir en parler aussi parce que le match se joue dans quelques instants, dans une heure à peu près. Le coup d'envoi, je crois que c'est 21h ce soir.
21h.
Pour le SCO face à Reims, ça sera la Coupe de France et on va en parler avec toi dans quelques instants. Le programme de la soirée, de l'émission. On a la Coupe de France donc du SCO, on va revenir sur le match, ce fameux match 3 buts partout contre Saint-Etienne, avec quand même quelques regrets à la clé, parce que le SCO menait 2-0 quand même, et même s'il y a eu le retour de Saint-Etienne et ce but de Bamba Dieng à la fin, voilà, c'est quand même un point pris à l'extérieur, ça reste quand même une belle opération en vue du maintien. On va évoquer le basket avec toi aussi, Faustin. On va forcément évoquer ce qui s'est passé du côté d'Auxerre avec les dirigeants marseillais, avec Pablo Longoria, Toi, le supporter de Marseille, Amaury, on va forcément évoquer la chose.
Prêt à en parler.
Prêt à en parler, exactement. Et on évoquera aussi du basket avec Victor Wembanyama, qui est une annonce la semaine dernière. On va revenir dessus, même si c'est pas de l'actu chaude. L'actu chaude, c'est quand même, il y a 48 heures, on avait appris quand même que Popovic ne va pas revenir sur un banc. Donc, on va pouvoir faire le lien avec ces deux informations. On va attaquer tout de suite avec du basket, les gars. Mais du basket local. Et qu'est-ce qui se passe dans la planète basket du 49, Faustin ?
Bah, il n'y a qu'une équipe qui a joué. On va commencer par elle. C'est l'UFAB qui signe une grosse victoire 85 à 80 contre Basketland. Les Angevines n'ont pas cédé à la panique en se faisant légèrement remonter en fin de rencontre et ont très bien géré le Money Time avec une immense perf de Laura Mendes avec ses 24 points qui ont très bien contré les 29 de Leila Lacan. Cette victoire les amène à une petite victoire du top 4 et même du top 2, car 4 équipes sont à égalité au-dessus du classement.
C'est une belle opération pour l'UFAB. Hein,
c'est ce que je disais la semaine dernière quand je présentais le match de l'UFAB, ils avaient perdu contre Chartres, je crois, qui était avant-dernier ou dernier championnat. Il fallait absolument gagner ce week-end pour pouvoir encore espérer du top 4 parce que c'est un concurrent direct, c'est fait. Bah, c'est parfait pour l'UFAB. Maintenant, il va falloir continuer à gagner des matchs parce que c'est très très serré.
Ouais, parce que Basketland, c'est quand même un sérieux concurrent dans cette première division.
Ils sont à égalité avec l'UFAB.
Exactement, et avec des moyens qui sont complètement différents aussi. Basketland est quand même une équipe référence dans le championnat de France, en tout cas.
Ouais, je pense, j'ai pas les chiffres du tout, mais en termes de budget aussi, Basketland doit être dans le top 3 assez facilement, si ce n'est plus.
On va continuer avec toi sur le basket.
Tout à fait, on va rester à Angers avec le AB qui n'ont pas atteint le top 7 de la première phase et sont donc assurés de ne pas monter en Pro B la saison prochaine. Maintenant, c'est l'heure de la deuxième phase de poule et en poule basse donc. Il faut maintenant éviter de finir dans les 4 derniers qui seront synonymes de descente en N2, sachant que le Pôle France ne peut pas descendre. Il commence cette phase vendredi contre Fleur.
Contre Fleur. Une équipe du département de la Loire, au-dessus de Saint-Étienne, on va dire à une quarantaine de kilomètres de Saint-Étienne.
Et enfin, Cholet Basket, pareil, pas de match depuis la semaine dernière pour raison d'une trêve internationale où les Bleus sont d'ailleurs qualifiés pour l'Eurobasket. Mais Cholet reprend du service demain contre Le Mans en quart de finale de Coupe de France, adversaire qui vient de les sortir en quart de finale de Leaders Cup. Il y aura donc une revanche à jouer du côté de Cholet demain. Et puis ils vont enchaîner aussi dimanche un gros match très important pour la fin du championnat, c'est contre Monaco. Monaco qui a une victoire de moins que Cholet sur le championnat. Donc c'est un match extrêmement important qui va être aussi très dur.
À domicile. Donc une très très belle affiche du côté de Cholet pour ce week-end. Et on rappelle aussi qu'il va y avoir le déplacement à Saragosse la semaine prochaine en quart de finale. Hein, pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc ça va être une belle semaine pour le Cholet Basket. Et on aura des choses à dire la semaine prochaine.
Tout à fait.
On y croit en tout cas pour eux. On va enchaîner rapidement avec des scores du volley. Le volley ce week-end avec les deux équipes scoïstes qui se sont inclinés à l'extérieur. Les garçons se sont inclinés du côté de Boulogne-Billancourt 3-7 à 0. Les filles se sont inclinées du côté de Carpiquet 3-7 à 0 en Normandie. Réception, double réception pour le SCO. Les filles et les garçons jouent ce week-end. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir. Ce sera pas exceptionnellement, apparemment, ce ne sera pas du côté de la Roseraie, mais ça sera du côté de la salle Jean Rousseau, l'ancienne salle, derrière le jardin botanique. Donc, vous allez pouvoir voir donc du volley, en plus du très beau volley, parce que le SCO, les garçons vont jouer contre le dauphin de la poule en National 2. Ce sera Laval et les filles, elles vont affronter le leader, le Saint-Cloud, du côté aussi donc de la salle Jean Rousseau. C'est ce week-end, ce dimanche à Angers. Du côté du hockey, la Ligue Magnus, on a gagné la Coupe de France. Vous en avez forcément parlé la semaine dernière, évidemment, Amaury.
C'est une interview même la semaine dernière avec le CUP angevin.
Ouais.
Donc voilà. Forcément, on a bien évoqué le sujet la semaine dernière.
T'étais hier aussi.
Et hier,
à la réception.
J'étais à la réception à la mairie avec la félicitation de la mairie, tout simplement, à l'équipe. Et donc, et avec une personne à la mairie, j'ai plus son nom en tête, qui était présente là-bas et qui avait l'air très heureuse, ça se voyait dans ses yeux.
Qui était contente de revoir les joueurs avec le trophée
une vraie supportrice.
Ça fait plaisir, en tout cas. On rappelle que donc, les Ducs d'Angers ont battu Chamonix 5-4 ce week-end. D'ailleurs, c'est le même équipe de Chamonix qu'ils vont affronter pour les playoffs qui vont commencer ce vendredi, à l'Ice Park, du côté près du cinéma de l'Ice Park, du coup, à 20h30 vendredi soir, match 1, match 2 le lendemain, samedi 2, le samedi 1er mars, excusez-moi, à 18h30. Les matchs 3 et 4 auront lieu mardi et mercredi prochain du côté de Chamonix, avec un potentiel retour pour un match 5 s'il y a besoin, le samedi 8 mars à 18h30. Voilà, en vue d'un potentiel. J'espère 4-0, toi.
On plie ça avant, c'est très bien.
on plie ça là-bas, du coup.
Très
c'est
bien.
Ça?
Ouais, très très bien.
Bon, bah, écoute, on y croit et on va voir si, les Ducs d'Angers vont faire cette très très belle performance. On va passer maintenant au football. On va quand même donner un petit point score régional 1. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir le match de Beaucouzé ce week-end contre le Poiré-sur-Vie, leader de son championnat. L'équipe 2 du Poiré-sur-Vie, malheureusement, Beaucouzé s'est incliné 2-0. Il y aura quand même énormément de regrets pour l'équipe de Beaucouzé, puisque voilà, il y avait peut-être mieux à faire. Manque de réalisme et par contre un réalisme froid et une très très jolie défense des Vendéens du Poiré-sur-Vie. Donc franchement, c'est à noter. On parle beaucoup de ce qui se passe avec le SCO, des U19 du SCO ou de Beaucouzé, mais là c'était la R1 et on en parle un petit peu aussi dans l'émission. Maintenant, on va parler du SCO parce qu'il y a quand même de l'actu chaude. Il y a le match du week-end dernier contre Saint-Etienne, mais il y a le match de ce soir en Coupe de France. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, sur ce qui s'est passé. On va dire, on va commencer avec le match de ce week-end et on va venir tout doucement vers ce match de ce soir en Coupe de France, en espérant forcément une qualification. Est-ce que l'un de vous a vu le match, ou au moins vu les buts de cette rencontre, Amaury?
Vu le match, non, j'étais au travail. Mais par contre, pour avoir bien vu le résumé et tout, on peut avoir des regrets énormément sur ce match. Une superbe entame de match, mené 2-0 contre Saint-Etienne, qui est une équipe moins bien classée que le SCO. Et bah, quand tu gagnes pas à la fin, forcément, t'as des regrets. Même si, au vu du scénario, on t'en prend 3, t'es mené 3-2, t'égalises dans le temps additionnel. Tu peux te dire, bon, on a évité le pire, mais c'est vrai qu'avec l'entame de match, et là j'ai les expected goals devant moi, j'arrive jamais à le dire, on est quasiment à 3, ils sont à 1,60 niveau de pour Saint-Etienne. Je pense que c'est un match qu'on aurait pu gagner. C'est un point pris à l'extérieur, mais 3 points pris à l'extérieur, ça aurait été encore mieux.
Bostin. Au vu du classement, là, les 3 points ont été... était excellent, ça nous aurait mis à plus de 10 points de Saint-Etienne, justement.
On aurait été à 11.
Ouais. Ouais, voilà, premier relégable, on aurait été 11e, il me semble, devant, donc on aurait été vraiment large.
Devant et ouais,
voilà.
On va en reparler après.
Et au vu de la physionomie du match, c'est clair que c'est vraiment décevant de voir ce score. Quand tu vois 2-0, c'est au bout de la 27e minute, et de prendre 3-2 au bout d'un moment, heureusement que ce pénalty arrive, heureusement que Bamba Dieng arrive à le mettre, parce que sinon ça aurait été vraiment catastrophique.
Ça aurait été très très compliqué. C'est vrai qu'on aurait vu du coup Saint-Etienne, premier non relégable, revenir à seulement 6 points. Donc c'est vrai que ça aurait été dommage de gâcher un peu cette belle deuxième partie de saison, depuis le mois de novembre, avec une belle équipe du SCO. Ça aurait été dommage de gâcher ça avec cette défaite du côté de Saint-Etienne. Tu prends au moins un point. Donc du coup, on va rappeler le classement. Angers est 12e, donc avec 27 points. Saint-Etienne, qui est donc le premier non relégable, mais donc qui sera barragiste potentiellement pour l'instant, si le classement s'arrête là et est figé dès maintenant, il y a donc 8 points d'avance. Il y a un matelas. Maintenant, il faudra pas non plus le gâcher, voilà, ce matelas. Pour le SCO, en championnat, il y a la réception de Toulouse ce dimanche à 17h15. Et ensuite, ça va être compliqué parce que tu vas affronter Brest, Monaco, Rennes, Paris et Montpellier. Et Montpellier. Et du coup, en cinquième match, dans les cinq prochains matchs de championnat, je dis bien, il y a quand même 4 grosses équipes, dont 3 équipes qui ont joué la Ligue des Champions cette année ou qui la jouent encore. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je vais revenir en fait sur ce qui s'est passé hier lors de l'interview avec Alexandre Dujeu, qui disait que c'est très bien la saison, le SCO est là où il voulait être au moins en championnat. Ils sont, pour l'instant, le maintien est plutôt bien parti. En Coupe de France, c'était pas forcément un objectif, ils sont encore là. Mais c'est ce qu'il disait, pour l'instant, c'est bien que du conditionnel, parce que si c'est pour perdre ce soir en Coupe de France et derrière enchaîner une série de défaites, et que en fait, pour l'instant, le maintien n'est pas acquis. Bien la sûr. Coupe de France, t'auras fait une demi-finale, t'auras fait un quart de finale. L'histoire est belle, mais finalement, c'est rien à la fin non plus. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à cette fin de saison. Ça commence dès ce soir par une victoire qui pourrait encore améliorer capital confiance, et surtout c'est une belle histoire forcément la Coupe de France, mais derrière va falloir en championnat assurer ces matchs là et au moins prendre quelques points pour éviter le retour de clubs derrière qui vont certainement On connaît les fins de championnat, les derniers clubs, souvent, sur les derniers matchs, ça prend quelques points.
C'est ça.
Bah, ça, le SCO, est, au final, est à l'abri de rien. Il y a ce match-là, comme tu disais, Florian, mais on est sûr de rien. Va quand même falloir continuer à avoir de bons résultats et espérer qu'en dessous, ça fasse pas non plus des dingueries à gagner tous ces matchs, comme Nantes l'a fait ce week-end en gagnant contre Lens.
Et c'est ça exactement. tu veux me percer le cœur là. J'ai regardé le match, j'étais pas bien, vraiment.
Parce que c'est vrai qu'en plus quand on regarde le classement, le SCO n'a pas une avance qui est confortable sans être énorme. Et en fait, si on regarde juste au-dessus, le SCO en fait avait gagné certains matchs qu'ils auraient dû gagner. Ils sont même pas loin de certaines places qui pourraient être presque européennes en fin de saison. C'est ça qui est fou dans cette Ligue 1. Parce qu'ils sont à 27 points, tu te dis, ce week-end ils gagnent, ils sont à 29. En étant à 29 points, ils sont à 4 points des places qui peuvent être européennes en fin de saison.
Oui, c'est vrai. Ça va très vite dans le football. Non, mais après, dans une Ligue 1 à 18 clubs, ça va très vite.
Ça va très vite. Et surtout, c'est un championnat qui est assez resserré quand même, entre les moins bonnes équipes et les meilleures. Si on exclut, j'ai envie de dire Paris quand même. Derrière, ça va très vite.
Après, d'ici la fin de saison, donc, il reste quand même 11 matchs, du coup, pour terminer cette saison. Donc, donc 33 points à prendre. T'en as 8 d'avance. Donc, il faudra prendre des points au passage. Mais bon, le SCO va quand même jouer le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Ouais, et le neuvième. Mais après, le neuvième qui est Brest, mais qui quand même fait une saison, je trouve, une très belle saison, avec 33 points, en étant neuvième, en étant pas loin des places européennes et en ayant joué la Coupe d'Europe.
Ouais.
Donc, vraiment, je trouve que, donc, le calendrier n'est pas forcément en la faveur du SCO.
Non, c'est pour ça que c'était important de prendre des points avant. C'est
mais ils prennent des points contre les gros.
Voilà. C'est vrai que, ils ont réussi quand même à faire quelques exploits.
Ouais.
Mais,
N'est-ce pas, Maury? Ils ont fait des exploits, le SCO.
Bon, pas le dernier.
Non, pas le dernier. Non, bien sûr, pas le dernier.
Mais évidemment.
Ils sont plus forts à l'extérieur qu'à domicile, même s'ils ont joué à l'extérieur à Marseille.
Marseille était plus fort à l'extérieur qu'à domicile, mais pas ce week-end.
Non, pas ce week-end, exactement. On va quand même parler de ce match de Coupe de France ce soir qui a lieu donc à Raymond Coppa. Si vous êtes en voiture ou que vous dirigez vers le stade, écoutez, profitez bien de votre soirée. On vous accompagne jusqu'au stade. Le SCO donc affronte Reims. Quart de finale. T'étais à la conférence de presse hier. Est-ce qu'il y avait des choses qui ont été dites en particulier sur cette rencontre?
C'était surtout ça a été porté sur l'effervescence qu'il y avait un petit peu dans l'équipe, que ce soit Yacine Baydim qui était en interview avant Alexandre Dujeu ou Alexandre Dujeu, disait tous il y a l'effervescence, elle commençait à monter un petit peu depuis le match contre Saint-Etienne. Avant, ils essayaient de se focaliser match après match parce que justement ils disaient c'est des matchs qui étaient importants, un match face à Saint-Etienne, les matchs avant où il y avait des points à prendre. Donc c'était une effervescence qui montait au fur et à mesure. Il a dit que c'était la compétition des joueurs aussi, la Coupe de France, et que eux ils sentaient chez les joueurs une vraie envie d'aller chercher cette finale. Yacine Baydim, on est qu'à 2 matchs d'une finale au Stade de France, et c'est vrai, mais ils sont 8 équipes encore à vouloir y aller.
C'est ça.
Donc du coup après c'était ils disaient essayer de faire comme le match face à Saint-Etienne, comme le match face à QRM, essayer d'entamer le match très fort face à une équipe qui doute en face. Ils sont sur une très mauvaise série, Reims, peut-être la pire en Ligue 1.
Non, il y a des séries qui sont...
Ouais, mais
Lens,
bon...
Lens est pas mal, ils sont 3 défaites consécutives.
En tout cas, Reims, ils sont sur 3 défaites aussi. La dernière, c'est Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Avant, ça remonte, victoire contre Monaco, mais il y a...
Penalty aussi.
C'était en Coupe de France le 14 janvier, mais en Ligue 1, la dernière victoire de Reims remonte au 10 novembre 2024.
Ah oui, donc c'est... On comprend pourquoi Jean Biard il a décidé de mettre fin au contrat de Lucas Elsner et de le remplacer. D'ailleurs, c'est son adjoint qui a remplacé.
Mais donc voilà, c'est entamer le match très fort, c'était vraiment les mots, que ce soit du joueur ou du coach, et derrière, bien mieux géré que face à Saint-Etienne, et éviter des pénalties, parce qu'on a vu que Reims a gagné 2 fois au péno, donc ça serait bien.
Ça serait dommage. Faustin
C'est clair que c'est le moment de jouer Reims. C'est là où ils sont le moins en forme et c'est le moment d'aller rêver. J'ai hâte un peu les places libres sur la billetterie du SCO et j'avais l'impression que c'était quand même pas si plein que ça. Malheureusement, pour un quart de finale comme ça, moi j'aurais bien aimé être au stade, mais malheureusement on reste professionnel, on vient à la radio.
Et 25 euros derrière les buts.
Ouais, en plus, ouais,
c'est comme ça.
Ça, c'est petit bémol, je dirais, sur le match, mais j'espère que ça va pas trop jouer non plus sur le moral de l'équipe qui va réussir à aller chercher la victoire.
On va rappeler quand même les quarts de finale, les autres quarts de finale, parce qu'il y a le match donc de Angers-Reims ce soir à 21h, Cannes-Guingamp à 21h aussi également ce soir, demain Brest-Dunkerque à 19h, et le Stade Briochin à Saint-Brieuc, Paris-Saint-Germain du coup, les trois, il me semble que c'est en plus du côté de du Roazhon Park de mémoire, à 21h10 demain soir.
C'est ouvert cette Coupe de France. Bah, il y a Paris.
Oui, il y a Paris et après derrière,
tout est prenable
derrière,
à part Paris.
Derrière, tout est prenable. Hein. Brest, Angers serait pas favori face à Brest, mais oui, c'est prenable. Dunkerque, t'es censé être favori.
Dunkerque,
Guingamp, t'es favori.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et Stade Briochin.
Faut voir.
voilà l'exploit.
non, mais faut voir. C'est vrai que si tu passes ce soir, faut voir qui va.
Voilà. Non, mais c'est,
faut voir
c'est
la surprise. Si Dunkerque fait la surprise contre Brest, c'est vrai que derrière, si tu joues Dunkerque, Cannes ou Guingamp,
celui qui joue Paris a pas beaucoup de chance. Mais au moins, c'est offrir une finale. Après, sur une finale, je trouve que c'est encore différent d'une demi pour essayer de faire un exploit.
Oui, c'est d'accord.
T'as plus de chances de faire l'exploit contre Paris en finale qu'en demi, j'ai envie de dire.
Ah, tout dépend où ils en sont après à la fin. On va dire où en est Paris dans son parcours en Ligue des Champions. Tout va se jouer là à ce moment-là. C'est vrai que si tu n'as plus que.
Oh, j'ai pas de doute.
T'as pas de doute, ça. J'ai bien compris que t'avais pas de doute. Mais mais c'est vrai qu'après tout est possible et je pense que beaucoup de supporters scoïstes forcément se mettent à rêver de revivre. Un parcours en Coupe de France comme par le passé, Faustin, non?
Bah évidemment, moi,
t'as envie d'y croire.
Je me souviens de ce match. Hein, je sais plus si j'ai pleuré, mais je devais être pas loin de ce contre son camp de Bamba, il me semble. Premier poteau sur le corner.
Et on avait fait un poteau, nous, je crois.
Ouais, je crois juste avant. Là, c'était terrible. J'étais au camping à Saint-Jean-de-Mont. C'était terrible. Mais là, je sais si à la finale, on s'est chauffé avec des potes.
Le fameux camping à Saint-Jean-de-Mont.
Être au camping, c'est terrible. Voilà, la nouvelle génération.
C'est pas non, ce que j'ai dit.
2017, ça ne rajeunit pas tout ça.
Ça remonte, hein. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps.
T'avais quel âge en 2017, toi, Faustin?
En 2017, j'avais 8 ans de moins, j'avais 11 ans.
Ah oui, quand même, ouais. Et toi, Amoré?
Bah, j'avais 2 ans de plus que Faustin, mais j'avais 13 ans.
Ah ouais, ça remonte, ouais, clairement. Okay.
Et toi, t'avais quel âge?
Oh, bah, 2017, j'avais 27 ans, hein, donc. donc voilà, mais bon. Non, bah, c'est vrai que pour les supporters du SCO, ça ferait. Et ça viendrait récompenser aussi le travail d'Alex du jeu, c'est vrai
ouais,
que.
C'est clair.
Bon, on était un peu pessimiste et on va se le dire, on va l'avouer. Parfois, il faut aussi avouer les choses. Dans l'émission, on a quand même été à un moment donné très pessimiste sur la saison du SCO. Quand on avait vu le début de saison, très compliqué avec.
Quand on a vu la prolongation, la prolongation d'Alexandre Dujeu, à un moment où tout va, où rien ne va.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, après, c'est après ça que tout est.
Ouais, c'est la confiance des dirigeants. C'est vrai que bon, on met souvent en avant peut-être leurs décisions un peu étranges. Là, c'est vrai d'avoir instauré cette confiance du côté de d'Alex du jeu.
Elle nous a étonnés sur le moment.
Bien sûr.
Mais il y avait de quoi être étonné à ce moment-là.
Mais faut dire que aujourd'hui, on peut pas être insatisfait de cette prolongation. Pour
l'instant. Non, mais c'est clair. Et puis, comme je le dis, le début de saison a été très compliqué pour le SCO avec les défaites, avec comment ça s'appelle aussi les recrues qui tardaient à venir.
Il n'y a pas eu de mercato.
Exactement. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Tu fais venir Bamba Dieng quasiment sur la fin de mercato. Bah, tu te poses des questions, c'est normal. Et au final, le SCO fait une quart de finale de Coupe de France, c'était complètement inattendu, je pense. Enfin, je pense que ni l'un ni l'autre vous auriez misé sur un parcours en Coupe du SCO, non?
Non, c'est clair. Surtout en plus, on va dire, ils ont pas tellement eu de chance non plus sur les tirages de Coupe de France où souvent ils ont affronté des clubs de Ligue 1, là où beaucoup d'autres clubs de Ligue 1 ont affronté des clubs de National ou de Ligue 2.
Ouais. Donc,
comme dirait Cédric, les boules chaudes.
Alors là, c'est pile ça, il a tout à fait raison, mais ça fait
la corruption. On va en parler dans quelques instants, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que non, mais je suis revenu sur le calendrier du début. Angers démarre avec 3 défaites consécutives. Alors oui, il est pas simple. Tu joues Lens, Lille, Nice, voilà. Mais tu fais après, tu fais. Mais t'as pas gagné un match.
C'était
avant.
Pas des belles prestations. Donc.
Je me rappelle, moi, du match contre Nice, j'étais au stade. Bah, c'est le seul match que j'ai vu au stade cette saison.
Ouais.
Wow, c'était pas beau. Hein.
Ouais, c'était pur,
ça donnait pas confiance. Hein.
Ta première victoire, c'est le 26 octobre 2024. Contre Saint-Etienne, 4-2. Bon, juste avant, t'as pris un point contre Marseille et un point contre Toulouse.
Le jour de la dernière victoire de Reims.
Ouais, t'étais au stade, c'est vrai. Ouais.
Le jour de la dernière victoire de Reims, quasiment.
Ouais, non, mais après, tu vois, il y a des parcours qui font que, et c'est vrai que tu vois, tu regardes le classement. Maintenant, Reims est un peu derrière.
Oui.
Donc maintenant, ça va être un match, là, au début de saison, tu te disais que potentiellement Reims était une équipe qui était supérieure au SCO. Ah, forcément,
Reims,
le SCO vient de monter.
Le match aller, Reims, SCO, c'était ici, justement, je crois.
Oui.
Ils m'ont impressionné. Reims m'a vraiment impressionné, hein, c'était fort.
Ah oui.
Et aujourd'hui, voilà. Les dynamiques d'une saison en cours qui varie.
C'est ça. Bon, match à 21h ce soir. On débriefera forcément ce qui s'est passé la semaine prochaine dans l'émission Génération Sport. On parlera du match donc de ce week-end contre Toulouse, mais forcément aussi de ce match de Coupe de France. On espère une victoire, on espère ce beau parcours. On verra contre qui va tirer le SCO. On en parlera, on va débriefer ça aussi la semaine prochaine dans l'émission sur le 101.5 de Radio G. On va faire une pause avant de parler au dossier un peu chaud. On parlait des boules chaudes, que Cédric, notre cher ami Cédric, d'ailleurs qu'on salue, on salue également Mathéo aussi, qui n'est pas présent ce soir, Alex aussi également, qui était présent la semaine dernière pour l'émission, on les salue bien évidemment. On fait la petite pause musicale, Faustin.
Ouais, on va s'écouter moi aussi quelque chose de tout chaud qui vient de sortir, c'est du Winter Zuko avec son nouvel album Salieri et son titre Langue Mort.
Comme Thierry, ils sont quand même bien. Ok, sans coup, je suis trop type comme Levi's. Je t'envoie au charbon, je suis pas sûr que t'y ailles. Genre de la guerre, comme si j'étais un GI. Je les laisse parler, je te ferai la chronique. Grandi dans le dirt, je connais tous les acronymes. Je suis sorti des égouts, mais je suis païen. Je pars en conquête, comme un païen.
J'aurai jamais leurs hommages. J'aurai pas la couronne, c'est dommage. Je vais devoir la voler, c'est pénible. J'y vais avec ma haine et mon courage. Billet de confirmation qui m'encourage. Je vois le bloc avec une enceinte pourrage. Toujours mauvaise nouvelle sur mon. Même si j'ai viré la hausse de mon canard, j'fais du cash mais j'suis bloqué dans mes traumas. Petit frère prend les armes, rejoins la causa. J'ai toujours souhaité être vu comme une légende. Depuis l'époque où je dessine des rosas, comme un langue mort qui habite aux arts. J'suis comme César, comme je grimpe aux arts. Un péjoratif, ça que moi j'suis un blédard. J'risque la couronne, j'suis prêt à un pétard. J'suis plus deep que la mélodie synthé. Je boite derrière la vie teintée. J'ai un pied jaloux dans la jambe. La main en pistolet sur la tente. Dans ma tête il fait 0 degré. Du bled des agras dans le pré. J'ai fait des cibles devant les phares et non. Je recompte 7K sur le canapé. J'suis plus deep que la mélodie synthé. Je boite derrière la vie teintée. J'ai un pied jaloux dans la jambe. La main en pistolet sur la tente. Dans ma tête il fait 0 degré. Du bled des agras dans le pré. J'ai fait des cibles devant les phares et non. Je recompte 7K sur le canapé. Ok, t'as pas le temps de se plaindre. J'ai des ampoules sur les mains. Parasite dans la tête et leur tibia sur mes reins. Wesh, tu prêques sur toutes les feintes. On va se cacher dans la F1. Et s'il y a pas de problème, pourtant moi j'ai qu'il y en a plein. J'ai des relations qui tiennent à rien. Tu peux me faire mal, wesh, tu fais ça bien. Poids trop lourd pour mes petites épaules. Le sang qui circule plus à cause des liens. Miraculé si je tiens. Je gâche la fête si je me viens. Vous laissez un chien. Que la mélodie synthé. J'ai boite derrière la vie teintée. J'ai un pied jaloux dans la jambe. La main en pistolet sur la tempe. Dans ma tête il fait 0 degré. Du bled des acas dans le pré. Je fais des signes devant les phares et non. Je recompte 7K sur le canapé. Plus deep que la mélodie synthé. J'ai boite derrière la vie teintée. J'ai un pied jaloux dans la jambe. La main en pistolet sur la tempe. Dans ma tête il fait 0 degré. Dans le pré, je fais des signes devant les phares et non. Je reconnais cette casse sur le canapé.
Winter Zuko, Langue Mort sur Génération Sport, sur le 101.5 de Radio G. On était en train de débriefer un peu la Coupe de France et ce qui va arriver. Et j'allais vous dire, donc je vous le dis à l'antenne, j'allais vous dire, franchement, si Cannes passe, il n'y a aucun monde où je vois, enfin, j'imagine bien une demi-finale Cannes-Paris-Saint-Germain. Avec Luis Fernandez qui va être en folie parce que c'est son club aussi. Donc voilà, je vois bien un Luis Fernandez-Zico pour un Cannes Paris Saint-Germain et je vois bien un Dunkerque-Angers.
Eh ben les boules chaudes, on se répète.
Voilà,
les boules chaudes corruptionnent, on se répète.
Dunkerque-Angers, Angers-Paris Saint-Germain en finale. Et vous l'aurez entendu en premier sur le 101.5 sur Génération Sport, d'accord?
Alors moi j'attends le score de la finale du coup.
Bah, victoire du Paris. Je vois bien, s'ils en mettent 7 à Brest en Ligue des Champions en jouant en marchand. Tout à l'heure, ils n'ont pas joué en marchand, je rigole. Mais
Brest joue en marchand.
Bah, Paris a quand même fait un match sérieux la semaine dernière. Je pense que
c'était pas le même niveau.
Et exactement, il y avait quand même deux classes d'écart à ce niveau-là. Même si c'est dommage, c'est vrai que Brest n'a pas eu ni l'équipe 1, l'équipe 1. avec les, vraiment tous les titulaires, mais bon, c'est vrai que t'en prends 7 au parc.
Ça fait mal.
10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Mais on va pas parler du Paris Saint-Germain, enfin si, un peu quand même, parce que bon, il s'est quand même passé énormément de choses en moins d'une semaine sur les réseaux sociaux, sur les fuites dans la presse, dans les médias, de Zoom, de petites conversations Zoom entre présidents, où Nasser El Khelaifi fait la pluie et le beau temps sur les conversations Zoom, où il demande à Vincent Labrune et à Jean-Pierre Caillot d'intervenir pour couper tel ou tel président avec qui il n'est pas d'accord. L'histoire du chapeau de cowboy, enfin le cowboy, John Textor, voilà, et qui après vient aussi lui avec son chapeau de cowboy dimanche soir contre le Paris Saint-Germain avant la rencontre. Entre temps, il y a eu ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille. Comment on pourrait appeler ça, Amaury?
La téléréalité de la Ligue 1, je sais pas.
Ah oui, complètement.
Franchement, dans cette Netflix, des fois, ils font des séries sur une saison.
D'ailleurs, il y a
l'émission qui est sortie sur les JO dans le basket. Voilà. Et ils nous le disent pas à l'avance s'ils le font souvent. Imaginons qu'ils en fassent une sur la saison de Ligue 1. Je pense qu'on peut avoir de quoi manger quand ça va sortir.
Il y a Drive to Survive pour la F1. Je me rappelle plus du nom du documentaire pour le cyclisme.
Oui, je ne l'ai plus non plus.
Il faut que je regarde sur le Tour de France, je vais voir s'il y a le nom, parce que ça me pourrait me faire beaucoup rire.
Un truc avec la roue, je crois.
Ils appellent ça au cœur du peloton.
Au cœur du peloton.
Bon, après, c'est en français, donc du coup, c'est au cœur du peloton.
Et au cœur de la corruption.
Je sais pas, mais comment on pourrait appeler ça? C'est vrai que c'est une télé-réalité. T'as bien résumé la chose, Amaury. C'est vrai que t'as l'impression que chaque jour, il y a un nouvel épisode. On va quand même dire à nos auditeurs, je pense que quand même beaucoup de personnes l'ont entendu. S'ils écoutent Génération Sport, ils ont entendu forcément ce qui s'est passé avec Pablo Longoria. Mais à la suite d'une... En fait, quand je dis à la suite, ça me fait penser à une chanson d'MC Solar, mais c'est à la suite d'une déception sentimentale. Mais c'est presque ça, en fait, pour Pablo Longoria, parce que du coup, à la suite d'une déception, enfin d'une décision, on va dire, de l'arbitre, de Monsieur Stinnett, il a complètement craqué. Il est arrivé dans les vestiaires, dans les couloirs, alors que le match est encore... Quand on voit les images de DAZN, on voit encore les maillots de son équipe derrière en train de disputer la rencontre.
Ah bah complètement, il est parti au moment du carton rouge.
Ouais, et il est en train d'hurler dans les vestiaires, dans les couloirs de la Baie des Champs. Championnat de merde, corruption, voilà. Enfin, il l'a répété à plusieurs reprises. Il a pris la caméra. Il le confirme. Même après 20 minutes, alors qu'il était à chaud et après même à froid, il en repart. Il en remet une couche.
Je suis pas sûr qu'il était encore à froid.
Non, non, c'est vrai, c'est exactement.
Je pense que ça a chauffé pendant.
En tribune, où il s'énerve aussi.
Ah ouais, exactement. Et même en tribune, il est complètement possédé.
Hystérique,
ouais. C'est le mot, hystérique aussi également. Amaury, toi qui es, bon, on va dire que les auditeurs le savent, on est tous un peu supporters. Toi, t'es pro Barça, Faustin, ouais. On va quand même le dire. Toi, t'es pro Marseille. Moi, j'adore énormément Lens. On va dire, je suis pro Racing Club de Lens, mais même si on fait beaucoup d'erreurs en ce moment. Toi qui es Marseillais, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé samedi soir?
Moi, j'ai plusieurs visions sur ce qui s'est passé. J'ai une première vision sur ce qui se passe avant le match. Pour moi, mettre Jeremy Stinnett, c'était une erreur.
Ah oui.
Il y a à partir du moment où déjà il y a un conflit d'intérêts parce que sur ce qui s'est passé avec Mehdi Benassia a fait appel de la par rapport à la décision qui a été de lui mettre 3 mois de suspension sur un événement qui s'est passé avec Jeremy Stinnett.
Ouais, en Coupe de France.
En Coupe de France.
Entre Lille et Marseille.
Mais donc du coup, il y a un conflit d'intérêts entre les deux. Mettre Jeremy Stinnett, moi, genre, c'est peut-être mon côté supporter, j'ai l'impression que je le prends comme une provocation de « on s'en fout de ce que vous dites, on va le mettre, c'est nous qui décidons
». Ouais, c'est complète. Mais c'est ça, c'est eux qui décident, donc ils mettent qui ils veulent.
Voilà, mais donc, du coup, on va bien vous montrer que c'est nous qui décidons, qu'on n'a rien à faire, on le met lui.
Ouais.
Derrière, ce qui se passe sur le match, des erreurs d'arbitrage. J'ai même pas envie, franchement, de revenir sur le fait est-ce qu'il y a eu des erreurs ou pas sur ce match-là. C'est même pour moi là, c'est le sujet, il est même pas ici. Derrière, par contre, ce que fait Pablo Longoria, autant il y a des fois, j'étais que tu puisses aller dire qu'il s'est passé quelque chose. Là, il allait beaucoup trop loin. Il est allé beaucoup beaucoup trop loin. Et ce qu'il a dit, il va le regretter parce que là, c'est jugé demain soir, ouais, directement. Il risque de prendre très très cher, ouais, et ouais, surtout c'est lui qui est censé représenter l'OM dans toutes les réunions. Il pourra pas le faire avec la suspension qu'il risque de prendre, sachant qu'avec tout ce qui se passe avec les droits télé, ça aurait été quand même bon pour le club qu'il soit présent.
Ouais, mais même quand il est présent, il fait pas beaucoup de choses, j'ai l'impression, donc C'est mon avis, après je vais le développer après. Mais
donc voilà, j'ai deux visions. La première, c'est pour moi la Ligue aurait jamais dû mettre Jeremy Stinnett sur ce match-là. Maintenant, une fois que c'est fait de toute manière, on peut pas revenir dessus. Et derrière, la réaction de Pablo Longoria est pas bonne du tout. Ça sert personne. Ça sert ni le club ni la Ligue ni sa personne. Et on verra les conséquences. Pour l'instant, on n'a pas encore, on les connaît pas, mais ça risque de pas être bon pour lui.
Faustin?
Bah ouais, moi dans les images, ça m'a fait penser à Didier Drogba qui vient faire It's a disgrace,
The fucking disgrace.
Ouais, voilà, dans la forme. Après, dans le fond, c'est pas non plus les mêmes choses qui sont dites. Mais là, ouais, il reste quand même la corruption, c'est quand même des reproches très graves à la Ligue. Qui n'ont pas lieu d'être et j'espère qu'il va quand même prendre une sacrée suspension pour ce qu'il dit, pour diffamation. Je pense que ce sera la...
Sachant que les arbitres auraient porté plainte, c'est en tout cas discours.
Les 111 arbitres, Ligue 1, Ligue 2, j'ai vu un truc passer comme ça.
En tout cas, c'était le discours des arbitres ce dimanche dans tous les avant-matchs. Ils sont venus pour dire qu'ils allaient porter plainte. En tout cas, tous les arbitres dans tous les districts allaient porter plainte par rapport à ce qui s'était passé avec Pablo Longoria.
Ouais, après moi je trouvais ça bien aussi que DAZN partage ensuite les images dans le couloir. C'est quelque chose qu'ils auraient très bien pu ne pas faire finalement. Et le fait qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux tout ça, c'est bien que tout le monde puisse voir ce qui s'est réellement passé, puisse comprendre l'affaire de cette manière et comme ça on peut se rendre compte que vraiment son pétage de plomb est vraiment
lunaire.
Voilà, c'est du jamais vu.
Ouais. Ah non, en France, on n'a jamais vu ça.
On a eu Zlatan. Alors, il n'y a pas eu le mot corruption parce que c'était pas le même jeu, mais franchement, Zlatan, ce qu'il fait,
vous avez dit que c'est un championnat de merde.
En tant que joueur,
en tant que président, c'est pas non plus le même impact.
Ça a pas la même portée, c'est vrai.
Ouais, mais bon, c'était Zlatan.
Ouais.
La portée, je pense, elle est peut-être encore plus haute dans le sens où.
Non, là t'es président de l'OM, du club qui a gagné la Ligue des Champions.
Tu es la star du club qui fait le plus vendre à l'international pour dans ta ligue.
Mais tu sais, c'est que quand t'es joueur, je peux plus comprendre un pétage de plomb. Du style, t'es là, tu es en train de jouer, t'as l'adrénaline, t'as tout ça, alors que là, il est en tribune, il regarde son match assis, quoi.
Ouais.
Certes, c'est son club, il y a beaucoup d'enjeux, mais c'est quand même, la manière de réagir est pas la même.
Ah ben, on est d'accord sur le fait que la réaction de manière.
Oui, non, évidemment.
Bon, alors, moi, je vais donner mon avis là-dessus, c'est que, enfin, je trouve que Pablo Longoria, en fait, il est à bout. Et en fait, sa réaction, elle arrive à un truc où on arrive à ça parce que le mec est à bout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir un président qui est coincé. Coincé dans l'idée, quand tu vois la conversation Zoom qui a fuité et tout ce qui en sort, et tout ce que les journalistes sportifs, n'importe quel média en tire, c'est que bah du coup, Pablo Longoria, d'un point de vue droit télé, d'un point de vue, il pèse pas forcément. Le club Marseille s'est quand même fait bien, je trouve, bien banané. Enfin, je trouve que et vraiment, si Marseille fait partie des clubs qui ont perdu de l'argent à cause des droits télé. Paris, on a gagné. Enfin, on le moins perdu, mais ceux qui en ont quand même le plus perdu, Marseille en fait partie. Et donc, il faut qu'ils trouvent un truc. C'est un moyen de communication aussi pour prouver aux supporters qu'il est avec eux et qu'il est, voilà. Et donc, forcément, aller sur ce terrain de l'arbitrage, pour moi, c'est aussi un moyen de communication pour montrer à ses supporters, vous voyez, je me bats pour le club. Et donc, du coup, comme il le fait pas sur le terrain, financier, privé, des droits télé, essayer de faire bouger le championnat, de peut-être même faire bouger la présidence de la Ligue, du coup, il le fait sur l'arbitrage. Il le fait sur l'arbitrage parce que cette année, son équipe, elle est deuxième, et elle est plutôt, je trouve que Desarbi fait plutôt du bon travail, mais je trouve qu'en fait, Longoria se trompe parce qu'il croit et il espère être en concurrence avec le Paris Saint-Germain. Sauf que pour moi, cette année, le Paris Saint-Germain est encore plus fort que les deux dernières années. Je trouve que leur collectif est impressionnant. On a un vrai rouleau compresseur. L'équipe, elle surdomine la Ligue 1 avec des joueurs qui ont été bien achetés, forcément, mais avec des joueurs qui sont moins forts. T'as pas Messi, t'as pas Neymar, t'as pas Mbappé. Et donc, en fait, il croit encore qu'il va pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Et comme il le fait pas et qu'il perd contre des équipes qui sont un peu moins bien, il faut qu'il trouve des artifices, on va dire, pour pouvoir essayer de revenir dans cette bataille-là. Et le problème, c'est que tu vois la faute ce week-end contre Auxerre. Ben pour moi, il y a jaune. Il y a jaune.
Pour moi aussi.
Il y a jaune. Il y a jaune. Sauf que en fait, et là où je suis d'accord avec Longoria, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, de cohérence. La même faute dans un autre match ne vaudra pas un jaune. Mais là, c'est sur Marseille, donc il y a le jaune. Et je peux comprendre l'énervement.
Pourquoi tu dis qu'il y a jaune si dans un autre match ils mettent pas jaune?
Bah parce qu'il y a pas de cohérence dans les décisions arbitrales.
Ah mais si si
regarde Donnarumma.
Oui non mais c'est ça. Bah, moi ce qui m'a rendu fou dans la cohérence c'est Harit, il y a une trace sur le play dessus.
Oui. Et je suis complètement d'accord.
Carton rouge. Donnarumma il va passer une semaine à l'hôpital.
Mais je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça là on voulait faire un débat, on va quand même le dire à nos auditeurs, on voulait aussi proposer des choses pour essayer de faire en sorte que nous, Génération Sport, à notre petite échelle, on se dise, bon, on a réfléchi à des trucs, on lance ça à la radio. S'il y a un mec qui écoute se ranger ou qui écoute en replay, pourquoi pas? Mais tu vois, je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Il n'y a pas de, la faute sur Donnarumma de Slingo, je crois que c'était Slingo qui met le pied en avant sur la joue de Donnarumma. Il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de carton, même c'est même revu après, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. Arrête, il y a la suspension. Et ça tombe sur Marseille. C'est vrai que deux fois ça tombe sur Marseille.
Le truc pour ce que tu dis, qui vient râler, en gros, j'ai pas le mot que t'as utilisé. Ouais. C'est après des défaites plutôt que tu parlais.
Pas forcément.
Ouais,
même.
Parce que la première fois où ils viennent, c'est après Lyon, match aller contre Lyon où Marseille gagne 3-2. Où il y a Balerdi qui est exclu en début de match sur cette faute avec Lacazette où il s'accroche les maillots. Marseille avait gagné. La première fois où ils viennent parler sur l'arbitrage cette saison, c'est sur une fois où Marseille gagne. C'est ça qui est là où j'entends beaucoup de gens qui viennent dire ouais c'est tout le temps quand ça perd pour excuser ou quoi. Les fois où ils ont estimé qu'il y avait des erreurs d'arbitrage et où Marseille a gagné, ils sont venus le dire.
Ils sont venus le dire aussi, bien sûr.
La prise de position qui a été prise cette année, c'est dès qu'on estime qu'on a été lésé sur l'arbitrage, peu importe le résultat, on viendra le dire.
Mais sauf que pour c'est la mauvaise manière parce que tu te mets à dos les arbitres. Et en fait, tu stigmatises la profession d'arbitre et tu mets en avant et tu les mets. Et moi, je trouve ça dangereux parce que au final, Stinat, pour moi, il fait pas un mauvais match ce week-end. Il fait pas un mauvais match d'arbitrage ce week-end. Je te dis, pour moi, il y a faute parce que quand t'as un premier jaune, tu peux pas te permettre de faire ce deuxième jaune-là, de faire cette faute-là qui peut valoir un jaune. Il arrive avec le genou en avant. Certes, c'est pas comme Slingo, c'est pas comme Harit, c'est pas comme sur Donnarumma ou sur Marquinhos. Mais le problème, c'est qu'au final, t'arrives quand même où tu maîtrises pas ton geste en entier. Et tu vois sur plein d'autres matchs, parfois t'as ces fautes-là qui sont sifflées, mais parfois elles ne le sont pas. Et c'est ça que je pense que les gens ont besoin d'avoir une cohérence.
C'est le souci des règles du football qui portent beaucoup trop à une interprétation.
Exactement.
On n'a pas des règles précises écrites de cette situation-là vaut un carton jaune, cette situation-là vaut un carton rouge.
Ouais.
Et du coup, ça crée tellement de conflits et c'est le gros problème des règles du football.
Voilà. C'est ça. Exactement. Au basket, t'as pas forcément ça. T'as un peu d'interprétation.
Sur les fautes sur tir au basket, on arrive souvent à avoir des gros débats quand même.
Oui, oui. Mais après, généralement, ça prend pas cette ampleur-là.
Ouais, quand tu regardes le replay, t'arrives à savoir là, il y a faute, là, il y a pas faute. En général, les arbitres peuvent ne pas siffler la faute ou la siffler alors qu'elle n'est pas.
C'est surtout à vitesse réelle, finalement. Ouais, c'est vrai que derrière, on arrive à avoir un consensus.
Voilà, alors que tu vois là, on voit la faute, on la regarde. Florent dit il y a carton jaune, moi j'ai carton jaune, toi tu dis pas, tu vois, c'est bizarre.
Et encore, j'ai envie de dire, c'est le pire, c'est même pas sur les fautes au foot. C'est tout ce qui se passe dans la surface, toutes les mains, tous les
accrochages sur les corners.
Mais la règle a tellement changé, la règle. Regarde PSG Manchester. Cette main, maintenant, elle n'est plus sifflée, ce genre de main. Pendant un temps, elle n'était plus sifflée, maintenant elle est resifflée. Maintenant, dès que la main, si la ballon a touché le plastron ou la cuisse avant et qu'elle vient sur la main, il n'y a pas main.
Ouais, alors,
tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut des règles fixes et je pense que le foot en a besoin. Tu vois, je l'embrasse en préparant l'émission. J'ai écrit à un de mes meilleurs potes qui est fan de football américain. Du coup, il m'a expliqué un peu le positionnement qu'a pris la ligue en NFL. Voilà, c'est telle action, ça vaut une faute. Il y a faute et c'est comme ça. Et si tu ouvres ta bouche, si tu l'ouvres et que tu veux venir protester auprès de l'arbitre. Attention, tu peux être exclu, tu peux avoir une amende. Si tu touches l'arbitre, exclusion aussi. Et si tu l'ouvres aussi, attention, l'amende, elle peut être très élevée. En fait, je pense qu'il faut peut-être protéger l'arbitre, l'aider aussi dans sa prise de décision, en ayant le moins d'interprétation possible. Parce que si ça vaut une faute, excuse-moi, pour moi, à partir de maintenant, le geste de ce week-end, c'est jaune.
Et c'est ça le problème. C'est ça le très gros problème, c'est que derrière, et le même arbitre, sur la même faute, le week-end d'après, va pas siffler. C'est
exactement.
Déjà, ce serait pas bon, mais si chaque arbitre avait une interprétation propre à lui, et qu'il s'y tenait, et que du coup, peu importe dans
et
le même.
Et qu'il l'expliquait voilà, aussi.
Et que dans le même match, que là, dans le même match, il peut y avoir la même chose, il va avoir une interprétation qui va être différente.
Complètement.
Que si entre les arbitres, il y a des différences, mais c'est toujours pareil sur l'arbitre, tu sais, avant le match, tu les connais, les arbitres. Pourquoi pas? C'est pas l'idéal, mais pourquoi pas? Là, c'est vraiment le même arbitre. Bah, c'est le même arbitre hein, sur Harit et sur Donnarumma.
Regarde ce qu'il y a d'Hakimi. Je sais pas si vous l'avez vu, la faute d'Hakimi sur, je sais plus, sur un Lyonnais, c'était sur Tagliafico. Bah, techniquement, c'est vrai qu'Hakimi, à un moment donné, en plus, il veut se friter avec. Il va voir l'arbitre de touche. C'est Enrique qui va le chercher pour lui dire: bon, maintenant, tu te calmes, sinon, tu vas sortir ou tu vas avoir un jaune, tu vas voir si. Bah, tu vois, cette faute de Hakimi, il n'y a pas jaune. Et pourtant, techniquement, pour moi, il arrive quand même bien pour faire mal aux joueurs, pas forcément pour prendre le ballon. Donc, techniquement, tu dois mettre jaune. Mais c'est vrai que chaque week-end, dans chaque rencontre, tu n'as pas forcément la même interprétation du jeu et de la faute. Et c'est ça qui est dommage. Je pense que le monde du foot a besoin de ça.
C'est ce qu'on a un peu en tendance arbitrale, c'est entre les championnats, j'ai envie de dire. On va dire que les arbitres anglais
laissent
beaucoup jouer. Les arbitres italiens vont beaucoup plus siffler, ce genre de choses. Mais au sein même d'un championnat, on peut pas dire cet arbitre-là, il arbitre comme ça, celui-là comme ça. Mmh. Et voilà.
Et pourtant, on a des très bons arbitres en France.
Oui.
Regarde, quand ils arbitrent en Ligue des Champions ou même à l'Euro, on est ravis. Les arbitres sont même valorisés, les arbitres français, parce qu'ils ont je sais que je comprends pas. C'est que, par contre, là, il faudrait que les arbitres nous expliquent pourquoi ils arrivent à être plus libres en Europe et quand les arbitres dans le championnat de France. C'est pas la même chose.
C'est peut-être la Ligue qui donne des consignes.
Peut-être.
C'est peut-être là un nouveau problème dont on n'a pas connaissance.
C'est la Ligue 1 qui va trop vite.
Non, mais tu vois ce qu'on se disait un peu en off dans l'émission pour la préparer. C'est vrai que il faudrait rendre aussi l'arbitre là le rendre un peu moins star, mettre quelqu'un de lambda et que cette personne lambda fasse appliquer le règlement. Voilà, ça c'est mais telle faute ça vaut ça. Et en fait enlever cette surinterprétation et parfois cette envie, cette volonté parfois des arbitres. Attention, alors tu vois je défends Destinat pour ce week-end. Là parfois t'as certains arbitres qui ont besoin d'exister, on le sent, c'est plus fort qu'eux.
Tu vois
ce que je veux dire.
Et
le choix de ce week-end pour Nantes, pour Marseille Nantes.
Oui.
Et bah
je sais pas.
Pour rapport à Marseille, moi il y a jamais eu un seul match où il y a eu un scandale avec Stéphanie Frappart, un gros scandale avec Stéphanie Frappart.
Il y a jamais eu de scandale.
J'ai suivi des comptes. Il n'y a pas encore eu de scandale. Attends,
donc,
ce week-end.
Donc pour moi, on a fait plaisir à l'OM du coup. Plaisir à l'OM du coup, on leur met parce que maintenant l'OM, il faut plus qu'il soit arbitré par Le Texier parce qu'il y a eu l'affaire Harit. Sinat, c'est plus possible. Tel arbitre, c'est plus possible. Donc à un moment donné, il faut aussi que les supporters de l'OM et les dirigeants se remettent aussi un peu en question sur ça.
Et normalement, si tous les arbitres ont porté plainte contre Marseille, aucun n'est censé pouvoir
arbitrer ce week-end.
N'est censé pouvoir arbitrer Marseille.
Mais t'es complètement.
À partir du moment où tu portes plainte contre un club, t'es pas contre les propos du président d'un club.
Ouais.
T'as beau, c'est pas le club que tu vises, c'est le président lui-même. Je pense qu'il est visé.
Oui.
C'est la personne. T'es pas censé. Il y a un problème là-dedans aussi.
Bon, après, il faut rendre encore plus professionnel la profession d'arbitre. Faut vraiment que tous ces arbitres de Ligue 1, Ligue 2, que ce soit centrale, touche, VAR, ça soit leur métier. On les rémunère avec un salaire fixe. En fonction des résultats, je sais pas, on peut faire peut-être quelque chose pour augmenter cette rémunération. Mais faire en sorte et vraiment sacraliser cette profession. Par contre, faire en sorte qu'ils puissent aussi dialoguer, parce que les arbitres ils viennent en début de saison, ils expliquent les règles aux joueurs. Et tu vois Will Steele à Lens, il en peut plus hein. Steele à Lens, c'est vrai qu'il y a des moments tu l'écoutes, il dit mais à quoi ça sert que vous venez nous expliquer les règles en début de saison et qu'au final derrière ces règles là soient pas appliquées. Donc c'est ça qui est compliqué. Et j'entends ce que tu disais tout à l'heure à Maurice,
mais il y a une chose qui est basique, qu'on a déjà vu sur des quelques matchs et qui déjà réglerait certains problèmes, pas tous. Mais rien que le micro sur les arbitres, on entend, tout le monde entendrait l'explication qu'il donne l'arbitre aux joueurs. Déjà, bon, non, sans parler que l'arbitre vienne expliquer à la fin de chaque match, parce que pour moi c'est pas possible qu'à la fin de chaque match l'arbitre vienne expliquer ses choix, etc.
Conférence de presse, pourquoi pas,
moi, peut-être à chaque match non plus.
Mais voilà, ouais,
c'est, en fait, faire c'est quand même plus souvent que ça arrive.
Mais là où j'ai du mal, c'est que en fait c'est sur un match on le fait. Pourquoi on l'aurait pas fait sur lui? Parce que c'est le petit club et qu'il n'est pas un
prêt. Tu le fais pour tout.
Il y a une erreur. Il y a une erreur sur le petit club. Les supporters du petit club, ils ont autant le droit de crier que les supporters du gros club. C'est là où j'ai du mal. Mais le voir à tous les matchs. Après, si ça devient une habitude, on s'y habituera, hein, mais ça peut-être ne pas être mal. Mais déjà, commencer par mettre un micro sur les arbitres, qu'on puisse entendre les explications qu'ils donnent aux joueurs. Les joueurs, eux, je pense qu'ils auront moins tendance à crier, à dire des choses sur les arbitres, parce que ce sera entendu aussi, hein, évidemment. On verra en fait les deux côtés. Et je pense que
apaiser les tensions.
Ça peut que calmer les deux côtés.
Ouais.
Des arbitres qui feront un peu moins les cow-boys et des joueurs qui viendront moins gueuler parce que derrière.
Déjà, tu vois, il y a même une règle que je trouve qui a pas forcément été hyper appliquée. C'est la règle où il y a que le capitaine qui doit venir parler.
Ah bah ça.
J'ai l'impression qu'au début de saison, ça l'était.
Ouais. Et puis maintenant, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. On revient comme l'année dernière.
Ouais.
Et je trouve ça c'est dommage. Du coup, moi, je voudrais qu'il n'y ait qu'un homme qui vienne parler. C'est le capitaine. Et parfois, tu vois même l'arbitre. Fourvoyer ou renvoyer le capitaine en disant non vous parlez pas, je veux pas vous parler.
C'est la pire des pédagogies pour.
J'ai vu Samba à Lens avant, quand il était encore capitaine du Racing Club de Lens avant son transfert à Rennes, parfois se faire envoyer dans ses 40 mètres là, retourner dans vos buts, monsieur Samba, j'ai pas envie de vous parler. Il est capitaine, il montrait son brassard en disant mais moi, je peux parler, hein, je peux vous parler. Non. Donc tu vois, il y a ça.
Oui, il y a un manque de pédagogie qui est clair.
Et complètement. Et tu vois, en NFL, il y a aussi un mec qui parfois quand la décision est, ils arrivent pas à la prendre et tu vois, ils sont pas d'accord. La VAR, mais demain le camion de VAR te dit bon bah moi je siffle les penalty, l'arbitre de centre dirait ah non pas moi. Bah, OK. Bah du coup, il y a un mec indépendant.
J'ai plus la situation en tête, mais je me rappelle une fois ces deux qui sont à la VAR.
Mmh.
Ouais, les deux disaient pour moi il y a faute. L'arbitre qui va au truc VAR fait ah non, je reste sur ma décision.
Ouais.
C'était clair. À la fin du match, il a dit oui, je me suis trompé.
Ouais.
Et quand t'as la VAR qui te le dit, que tu vois images et qu'à la fin du match, tu te dis je me suis trompé, il y a un moment, il faut aussi savoir dire oui, j'ai eu tort.
Quoi. Ouais, complètement. Et du coup, tu te retrouves pour moi, enfin, tu mets, on a tellement d'anciens arbitres. Gilles Vestière, enfin, tout ça, tous les arbitres des années 90-2000 qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience. Mettez-les-moi, en fait, en mode, le temps d'un week-end, c'est lui le patron du week-end. Il enchaîne les 10 matchs, il fait les 10 matchs, et voilà. Et c'est lui qui va maintenant dire, ok, il y a un désaccord entre la VAR et l'arbitre central. Ok, c'est moi. J'ai les règles sous les yeux. Bah ça vaut penalty. Ou après c'est son interprétation à lui. Mais avec son expérience de plus de 20 ans dans 25 ans dans d'arbitrage, voilà.
Mais est-ce que ça va pas juste déplacer le problème et la faute va être remise sur cette personne?
Bah mais après ça aussi à nous supporters ou aux supporters, aux suiveurs de se détendre, de se calmer, parce que je trouve qu'en fait cette tension dans le monde du foot actuellement dessert complètement le foot.
Oui.
Et ça met en valeur tout ce qui est rugby, tout ce qui est basket, les Jeux Olympiques, enfin tout, tu vois.
Surtout que
le foot est en train de perdre en popularité.
Ouais, c'est clair.
C'est dingue.
Le rugby, il y a la comparaison qui est simple avec le capitaine qui vient, l'arbitre qui parle au capitaine, qui lui explique, c'est calme. On a souvent en plus des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux où il y a des blagues quasiment faites entre arbitre et joueur. Et l'arbitre, il dit tu sors, par contre, bah tu sors.
Ouais.
Et là, tu parles plus. Le respect qu'il y a dans le rugby. Si un jour on arrive à rien qu'à s'en rapprocher au foot, franchement, ça serait
pas mal. Ça serait vraiment très intéressant. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce débat arbitrage qui nous aura tenu une bonne vingtaine de minutes?
Ouais, je pense que
on pourrait en rajouter encore pendant 20 minutes, hein, mais on a aussi d'autres choses à dire. Et
j'avais d'autres idées pour la Ligue 1, mais on en fera une autre émission. Exactement.
Voilà.
On va évoquer maintenant une toute autre discipline. On va s'orienter vers toi et puis après on finira avec Amaury pour le journal international. On va parler basket avec ce qui s'est passé la semaine dernière pour notre tête d'affiche, Victor Wembanyama.
Une mauvaise nouvelle avec on a appris la blessure de Victor Wembanyama, une thrombose veineuse. C'est tout simplement un caillot sanguin dans les veines. Donc une blessure qui risque de l'éloigner entre 3 à 6 mois des parquets.
Ouais.
Donc on le reverra pas d'ici la fin de saison NBA. Il va sûrement louper l'Eurobasket. Il reviendra au début de la saison régulière, on l'espère en tout cas. Si déjà il peut reprendre, voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui ont dû arrêter leur carrière pour ce genre de blessure, notamment Chris Bosh, mais on a aussi pas mal de joueurs qui ont pu reprendre comme
Brandon Ingram.
Brandon Ingram,
Ozar Thompson.
Ozar Thompson, voilà, ouais. Récemment. Donc, normalement, a priori, de ce qui est dit, il devrait pouvoir reprendre tout de même d'ici 3 à 6 mois. On espère 3 mois qu'il puisse jouer l'Eurobasket, mais je pense que personnellement, je suis assez pessimiste là-dessus.
Et puis, je pense que les Spurs vont dire, à un moment donné,
oui.
Bon.
Calmos.
Tranquille.
En fait, ce qui est surtout très important avec une blessure de ce type, c'est qu'ils sont un cas isolé.
Ouais.
Bah, oui. Une blessure. En fait, je ne sais même pas si on peut parler de blessure. C'est même pas une blessure.
C'est blessure,
mais,
une maladie.
Voilà, c'est, mais faut qu'ils soient un cas isolé parce que le problème, c'est si que ça, il y a plusieurs endroits dans le corps.
Ouais, ouais.
Et c'est là que ça devient très dangereux, même pour la santé, sans parler de la carrière d'assiette. Ouais. C'est très dangereux pour la santé. Donc, on espère pour lui, évidemment, que ce soit un cas isolé et qu'on puisse très vite le revoir sur les parquets.
Exactement. Et on comprend du coup aussi son, comment dire, sa petite baisse de régime sur le mois de janvier, février, là. On comprend du coup, parce que c'était une gêne qu'il avait depuis plusieurs semaines. Et du coup, malgré tout ça, il a quand même fait un match superbe du côté de Paris.
Ouais.
Le premier, on va dire. Le deuxième était un peu moins bon.
Je suis heureux un peu qu'il soit diagnostiqué de ça après Paris.
Le mauvais coup de com'.
T'as plein de supporters de Français qui étaient partis pour aller le voir aux États-Unis là, qui sont complètement dégoûtés. Après,
voir San Antonio.
Exactement.
Voir D'Aaron Fox.
Bah, le mieux, c'est exactement. Et j'ai même plus Zach Collins pour et Mamukashvili. Voilà. On part avec toi, Amaury, on va rester un peu international. On est du côté de la NBA. On va rester avec toi pour tout ce qui est actuel international.
Ouais, on va commencer par le football. Et c'est une chronique qui a été écrite par Mathéo. Hein. Je le cite parce que j'étais un petit peu dans le rush. Il m'a écrit ça. Donc, au niveau du football en Ligue 1, la bataille pour l'Europe tient toutes ses promesses. Hein. Lille a battu Monaco à domicile, ce score de 2-1 et passe devant le club de la principauté au classement. Nice a solidement battu Montpellier à l'Allianz Riviera, 2-0 et monte sur le podium. Marseille perd des points et prend des buts. Défaite 3-0 contre une équipe d'Auxerre qui n'avait plus gagné depuis 12 matchs et la victoire face au Sceaux en décembre. Je sens que quand il a écrit ça, il savait que j'allais le lire, ça lui a fait vachement plaisir. De son côté, le choc de cette 23e journée a tenu toutes ses promesses. En fin de match, victoire de Paris 3-2 au Groupama Stadium sur l'OL. Ici, il a eu plus de mal à l'écrire, j'imagine. Avec donc des images fortes en fin de match, notamment cette scène, la montée de Lucas Perry sur le dernier corner venu gêner Donnarumma. Dans les autres rencontres, Strasbourg et Brest se partagent les points sans marquer, 0-0. Le Havre s'incline à domicile 1-4 et perd des points sur ses concurrents au maintien, puisque Saint-Etienne a pris 1 point et Nantes 3 après une belle victoire non sans scandale face à Lens. Lyon avec le match qui est ouvert cette 23e journée et cette victoire rennaise face à Reims qui descend à la 15e position, c'était un score de 1-0. En Ligue des Champions, il n'y a plus que deux clubs français que nos voisins italiens qui ont chuté lourdement voyant les trois clubs engagés en 16e de finale tomber, à savoir la Juve, l'Atalanta et l'AC Milan face à des adversaires qui sur le papier étaient abordables. Monaco n'a pas réussi à renverser la tendance face au Benfica mais nous aura tout de même donné un magnifique spectacle, 3 partout entre Français et Portugais. Et puis dans le match entre clubs français, le PSG n'a pas épargné Brest, on a parlé tout à l'heure. Victoire 7-0 au Parc, qualification donc pour le club de la capitale. Et en Europa, l'OL a hérité du FCCB Heights Steaua Bucarest. Je sais pas exactement ce que veulent dire chaque lettre de FCCB. Mais donc voilà, l'ancien Steaua Bucarest pour l'OL en huitième de finale. On voulait réagir ou on passe directement?
Non, on va pouvoir passer directement.
Ouais,
il nous reste 2 minutes 30.
Parler rugby, évidemment,
bien
avec la belle histoire du week-end, hein, avec le tournoi des nations et la France a facilement, et c'est un euphémisme de le dire, triomphé l'Italie 73-24. De son côté, l'Irlande, futur adversaire au 15 de France, a eu du mal à se défaire des Gallois. Un signe avant le choc décisif pour une nation qui semble plus prenable que sur les deux dernières années. Faut quand même noter que les Irlandais ont reçu un carton rouge en début de seconde mi-temps. De leur côté, les Anglais se sont fait peur, mais finissent à un point au-dessus des Écossais, 16-15, avec Owen Farrell, qui a raté la transformation de la gagne à la fin pour les Écossais. Et donc, deux victoires de 1 point de suite pour l'Angleterre. Et ce week-end, c'était aussi la 17e semaine de top 14. Toulon est venu à bout du Stade français 24-6. Castres bat Lyon 30-25. Bordeaux-Blaye continue sur sa lancée avec une victoire sur Clermont 22-18. Le duel entre La Rochelle et Racing 92 vire au blanc et bleu 26-21. Toulouse a balayé Bayonne 41-6. Et pour finir, ça va faire plaisir à toute l'équipe. Vannes a battu Montpellier 37-24.
Et qui n'est plus lanterne rouge du top 14, Vannes, il me semble, avec cette victoire.
Certainement, ah ouais, je l'ai pas devant moi, mais ça doit certainement être sorti.
Et on va espérer une victoire donc de l'équipe de France de rugby face à l'Irlande dans 15 jours pour croire encore à une victoire de l'équipe de France dans cette
dans ce tournoi destination. Mais pour ça, il faut aussi que l'Angleterre soit battue par l'Irlande. Après, bon, bah, il faut espérer des concours de circonstances.
Ouais. Après, l'Angleterre a déjà perdu contre l'Irlande en ouverture.
En ouverture, excuse-moi.
Donc, ça va falloir aller chercher des points de bonus offensifs.
Exactement. Et c'était pas mal de le faire contre l'Italie.
Donc, voilà, c'était absolument à faire. Il nous reste 30 secondes. Je donne les informations très rapidement. Alexis Lebrun, vainqueur du top 16 européen. Félix, lui, a eu un peu plus de mal à être éliminé en quart de finale. En biathlon, fin des mondiaux exceptionnels pour l'équipe de France avec 13 médailles, dont 6 en or. On égale notre record. Et l'équipe de France de basket finit les qualifs à l'Euro invaincue. Victoire 116-114, c'est ça la Bosnie pour le dernier match.
Exactement. Et on va donner le parcours du Tour de France 2026 avec un départ de Barcelone dans un an et demi avec un contre-la-montre par équipe. Voilà, on se quitte là-dessus avec toutes ces infos internationales. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Même endroit, même heure. Ciao.